À tous les élèves, je vous demande une minute.
Mesdames et messieurs les recteurs,
chers agents,
chères lycéennes, chers lycéens,
je veux que on ait, dès la sixième de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres.
Il y a beaucoup trop d'absentéisme dans l'éducation nationale.
Soyez heureux en classe, a souhaité le ministre de l'Éducation.
Travaillez bien.
Bonjour Philippe.
Bonjour Laurence.
Je suis très heureuse que tu sois un petit peu aujourd'hui notre grand témoin sur la question de l'école, qui est une passion commune. Donc, faire très rapidement, pédagogue d'abord, avant tout, hein, c'est un mot sur lequel on va revenir pas mal, on va discuter pas mal. Tu as fait de la politique, tu es un auteur, tu es un intellectuel, tu es un universitaire, tu es un chercheur, etc., etc., etc. Tu es aujourd'hui président des CMEA, c'est-à-dire d'une des plus grandes organisations d'éducation populaire. On pourra aussi parler de l'éducation populaire. Alors, je vais peut-être commencer en fait par te dire quelque chose que tu ne sais pas forcément, qui est comment moi je t'ai rencontré. Il y a longtemps, hein, il y a maintenant près de 15 ans, où je commençais à former des enseignants du premier degré. Et j'avais un cours que j'avais appelé « Livre en débat ». Et dans ce cours de « Livre en débat », je mettais en débat ton livre qui s'appelle « Pédagogue, le devoir de résister ». Avec le livre à l'époque de Brighelli, qui s'appelait « La fabrique du crétin ». Et c'était des jeunes L3, hein, donc ils avaient 21 ans, ils n'étaient pas du tout au fait des débats de l'école. Et voilà, et on discutait de ça, et on discutait des raisons pour lesquelles c'était en fait si violent, vos positions réciproques, et surtout les raisons pour lesquelles j'avais découvert grâce à toi que faire de la pédagogie, c'était un peu faire de la politique. Voilà. Et donc, bah déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui, évidemment. Je n'ai pas souvenir que dans ce petit livre Pédagogie, le devoir de résister, j'ai été très violent.
Non, tu ne l'étais pas, toi.
D'attaques extrêmement violentes, attaques ad hominem extrêmement violentes et qui m'ont d'ailleurs beaucoup affecté. Je m'en suis un peu dégagé, mais ça a été assez compliqué et difficile. Mais oui, bien sûr, c'est faire de la politique. Moi, je suis né en politique. Hein. Je suis né en politique d'une manière un peu étrange. Je l'ai dit à deux ou trois reprises, je peux le redire ici. Moi, je suis né dans une famille d'extrême droite. Hein. Moi, je m'appelle Philippe à cause de Pétain. Mes parents étaient pétainistes. Je suis né entouré de portraits de Pétain. Et ils ont fait une erreur stratégique dans mon éducation qui a été considérable. Quand je suis rentré en sixième, ils m'ont envoyé à l'aumônerie de lycée parce qu'ils étaient persuadés que là-bas, on allait m'entretenir de cette conception extrêmement étroite et conservatrice du catholicisme qu'ils portaient. Et puis, ils se sont trompés parce que l'aumônier du lycée était un prêtre ouvrier, par ailleurs adhérent au Parti communiste, et qui, lui, m'a fait découvrir des tas d'autres choses et m'a montré très vite que le lycée dans lequel j'étais et les relations qui existaient dans ce lycée, c'était pas simplement des relations pédagogiques, mais que ça renvoyait à toute une série de problématiques politiques. Alors, je suis rentré en sixième en 1960, et c'était l'époque où il y avait les premiers responsables de classe. C'était pas encore les délégués de classe, et on se battait pour que la hiérarchie accepte nos élections, etc. Et très vite, s'est créé dans le lycée tout un groupe de réflexion autour de pédagogie et politique. De pédagogie et politique, et on se réunissait à l'aumônerie, mais l'aumônerie n'avait plus rien de canonique, hein. On y discutait de questions extrêmement diverses, du type l'amitié entre garçons et filles est-elle possible, peut-on éradiquer la faim dans le monde, ou ce genre de choses, Et parmi les sujets dont on discutait en particulier, il y avait pédagogie et politique. Ce qui se passe dans une classe, c'est un acte politique. Là, je parle d'un temps, évidemment, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le lycée n'était même pas mixte. Il y avait le lycée de garçons et le lycée de filles.
Ça commençait en sixième.
Voilà. C'est pour ça que tu dis... Nous militions pour qu'il y ait un ciné-club mixte. Et je me souviens avoir été, au nom des délégués d'élèves, reçu par le proviseur pour exiger un ciné-club où les garçons et les filles puissent regarder et débattre des films ensemble, et on discutait aussi de cette question de l'égalité des genres. Mmh. Et donc, très vite, la question de l'école m'est apparue comme une question réellement au cœur de la politique, et puis ça a été une rupture radicale avec mes parents. Évidemment, mon père a voulu aller casser la gueule à l'aumônier, ça s'est assez mal terminé, pas pour l'aumônier, plutôt pour mon père. Et donc, très vite, j'ai perçu que derrière les enjeux de transmission de savoir, il y avait des enjeux en termes d'égalité, il y avait des enjeux en termes de domination, il y avait des enjeux en termes d'émancipation, et que c'était important de ne pas isoler l'instruction scolaire et l'acte pédagogique dans une bulle, indépendamment des problèmes sociétaux et des enjeux politiques. Mmh.
Du coup, tu donnerais quoi de définition de ce qu'est un pédagogue ? On va tourner autour de ça un petit moment.
Oui, alors moi, j'utilise souvent la définition que donne mon collègue Jean Housset. C'est quelqu'un qui essaye de conjoindre, de travailler ensemble un peu la théorie et la pratique en matière éducative. Voilà. Donc à ce titre, on pourrait dire que Rousseau n'est pas un pédagogue, c'est un philosophe de l'éducation. En revanche, on pourrait dire que Don Milani, celui qui a permis l'écriture de la lettre à une institutrice, à une enseignante, est un vrai pédagogue, puisqu'il a réussi à conjoindre une pensée pédagogique avec la mise en place, la mise en œuvre d'une réalisation pédagogique. En fait, on pourrait dire que Freinet aussi. C'est tous ces gens qui ont tenté d'incarner des finalités philosophiques, idéologiques et politiques dans un acte éducatif.
Ouais, des gens qui, en fait, nourrissent leur propre pratique aussi par une réflexion, un renouvellement permanent sur la théorie, ce que signifie éduquer, ce que signifie éduquer pour tous les enfants, la justice sociale un peu chevillée au corps. À la limite, je dirais que c'est quelque chose qui nous apparaît un peu logique, et pourtant, en France, on a un débat important autour de ce concept. Pédago est devenu une insulte.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà, peut-être qu'on pourrait expliquer aussi un peu aux auditeurs, auditrices, qu'est-ce que ça recouvre, ce débat-là. Pourquoi on peut pas se dire pédago ? Il y en a même qui vont jusqu'à inventer ce néologisme de pédagogiste.
Il y a les pédagogos aussi.
Il y a les pédagogos, voilà. Donc il y a en fait une image qui est assez sale, qui est assez dévalorisante, disqualifiante, et qui est pas très compréhensible en fait pour la majorité des gens.
Oui, alors on pourrait dire que la France a un vieux contentieux avec la pédagogie. Un vieux contentieux qui d'ailleurs s'exprime assez bien dans le débat entre Voltaire et Rousseau. Et on n'a jamais honoré Rousseau comme on a honoré Voltaire. Voltaire, c'est l'expression du génie, c'est celui qui a le mot d'esprit grâce auquel il va retourner l'opinion, c'est celui qui écrit bien. Rousseau est perçu comme celui qui est toujours centré sur lui-même, qui essaye de chercher, qui se contredit parfois, qui hésite, il a un aspect un peu laborieux, et puis, voilà, il n'est pas aussi brillant, aussi fulgurant dans ses mots d'esprit que peut l'être Voltaire. Et la France a toujours retenu, et on a des témoignages des salons parisiens du XVIIIe siècle, où dans ces salons, on moquait Rousseau et on exaltait Voltaire. Et c'est resté, au moment même de la création de l'école de Jules Ferry, dans les années 1880-82, Jules Ferry confie un cours de sciences de l'éducation à Henri Marion. Et à l'époque, le grand journal, qui était l'équivalent de nos grands hebdomadaires aujourd'hui, qui était la Revue des Deux Mondes, publie des articles d'une violence inouïe contre Jules Ferry et Marion, en disant « les élèves n'ont pas besoin de pédagogie, les élèves ont besoin de savoir, de maîtres qui savent, et s'ils ne savent pas reconnaître le savoir dans les maîtres qui savent, tant pis pour eux ». tant pis pour eux qui restent à côté du savoir. Et déjà, chez Jules Ferry, on trouve, à l'époque de Jules Ferry, on trouve cette méfiance un peu méprisante vis-à-vis de ces gens qui ne seraient pas capables, comme des esprits brillants à la Voltaire, de faire passer spontanément leur savoir dans la tête des autres grâce à de belles formules, des mots intelligemment choisis et une sorte de brillant et de vernis un peu mondain. Voilà, le pédagogue est perçu comme besogneux, il cherche, il se demande comment l'autre apprend, il s'interroge sur les raisons qui fait qu'il n'a pas envie d'apprendre. Alors que le véritable intellectuel, lui, il prêche, il dit, il est certain de ce qu'il dit et il le dit pour que tout le monde l'entende.
On est aussi dans l'image de l'enseignant, quoi. C'est-à-dire que l'enseignant qui fait de la pédagogie, peut-être surtout dans le secondaire d'ailleurs, parce que dans le premier degré, ça se pose moins, mais dans le secondaire, l'enseignant qui fait de la pédagogie, c'est celui qui perd un petit peu son étiquette d'intellectuel.
Oui, il y a une espèce de fantasme de la variation en sens inverse. Plus on ferait de la pédagogie, moins on s'intéresserait au contenu. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Et là-dessus, les recherches sont très intéressantes. Elles nous montrent que ceux qui creusent les contenus sont ceux qui s'intéressent à la manière de les transmettre. Parce qu'en s'intéressant à la manière de les transmettre, on va dedans, on regarde comment le moteur fonctionne, on est attentif aux bricoles, etc. Et donc, ça oblige à être bien plus rigoureux, bien plus exigeant envers ce qu'on transmet que quand on se contente de le prêcher à des convaincus qui ont été sélectionnés pour ça.
D'ailleurs, paradoxalement, on a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui disent « Ah ben non, moi je veux mettre mes enfants dans une école alternative parce qu'il y a des pédagogies alternatives. » Alors là, déjà, ça a une autre image. Si tu devais, toi, choisir comme ça un ou une pédagogue un petit peu intéressant, intéressante, emblématique, tirée vers qui ?
Moi, le pédagogue que je trouve le plus intéressant dans la mesure où il a opéré le changement le plus significatif dans ce qu'on pourrait appeler la pensée pédagogique, c'est Makarenko.
Ah ouais.
C'est Makarenko, même si je n'approuve pas tout ce qu'il dit.
Alors peut-être resituer un petit peu qui c'est.
Alors Makarenko, c'est un éducateur, on dirait un éducateur spécialisé, qui au moment de la révolution bolchevique récupère les gamins un peu abandonnés et fonde une colonie, la colonie Gorki, où se trouvent là des enfants délinquants, etc. Pourquoi je considère que Makarenko, j'ai même parlé dans mon travail du moment Makarenko, Makarenko introduit quelque chose de nouveau, c'est parce qu'il est un des premiers à repérer qu'une forme de pédagogie apparemment libertaire creusait les inégalités. Il a été un des premiers à dire « Si je laisse mes adolescents s'organiser entre eux sous forme d'une sorte de colonie soi-disant coopérative, en réalité, ceux qui sont plus forts que les autres vont imposer leur opinion et leur pouvoir et on va reproduire, voire creuser les inégalités. » Finalement, dans le mouvement qu'on appelle de l'éducation nouvelle, il y a très peu de gens qui ont repéré ça. Il y a très très peu de gens qui ont repéré quels étaient les processus par lesquels la pédagogie pouvait entériner, voire faire se creuser les inégalités entre les sujets et les individus. Et Makarenko, me semble-t-il, a été un de ceux qui l'a perçu le mieux, et alors il a inventé des trucs formidables. Makarenko invente par exemple le système du président d'un jour, ça je trouve c'est formidable. Il dit, il ne faut pas que ce soit toujours le même gamin qui préside l'Assemblée, parce que si c'est toujours le même, c'est celui qui va tirer son épingle du jeu, parler le mieux, etc. Donc chacun va être président à son tour de l'Assemblée des colons. Et tous les jours, ça va être quelqu'un de différent. Et puis Makarenko organise ce qu'il appelle des détachements. Il y a les détachements centrés sur l'apprentissage, il y a ceux centrés sur l'organisation de la vie collective, couper du bois, faire la cuisine, etc. Et il insiste sur le fait qu'au sein de ces détachements, il faut à la fois changer de rôle et changer de fonction. C'est-à-dire que celui qui, dans la cuisine, est le chef un jour, il doit devenir l'exécutant le lendemain et vice-versa. Celui qui est spécialiste de telle chose, il doit le lendemain s'intéresser à autre chose pour pouvoir ouvrir et élargir sa vision des choses. Il est celui qui a le mieux à mes yeux, analysé dans son fameux poème pédagogique en quoi l'acte pédagogique peut combattre en tant que tel les inégalités. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, il est aussi un de ceux qui rompt, il y a un passage que cite toujours de Macarine Cook, qui rompt avec le modèle médical. Il dit à un moment, dans sa colonie, il y avait des tas de gens, ces éducateurs, qui étaient très friands de connaître le passé des colons qui arrivaient. Et donc, ils cherchaient les dossiers pour savoir ce qu'ils avaient fait avant, s'ils avaient délinqué, s'ils avaient volé, s'ils avaient... Et un jour, Macarine Cook dit, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus accès à aucune des informations sur le passé des gens. Parce que ça suffit d'enfermer les gens dans leur passé. Maintenant, nous sommes là pour ouvrir leur avenir. Et je vais vous interdire de savoir quoi que ce soit sur eux, parce que l'important, c'est de les émanciper, c'est-à-dire de les faire sortir de ce dans quoi on les a enfermés jusqu'à présent. Donc, alors, on pourrait discuter, parce que lui, Macarine Cook, il connaissait le passé. Oui. Hein, et donc, il pouvait alerter s'il y avait un danger. Mais ce mouvement est très intéressant, parce qu'il pointe ce qui, pour moi, est au cœur de l'émancipation, c'est le refus de l'enfermement dans une étiquette, le refus de l'enfermement dans un symptôme, le refus de l'enfermement même dans ses actes.
Oui, puis le fait de décréter qu'un enfant est éducable, voilà.
Et le fait de décréter que tous les enfants, évidemment, sont éducables. Et la correspondance de Macarine Cook et Gorky, puisqu'ils ont une correspondance très longue, est vraiment passionnante, parce qu'on y voit quelqu'un qui doute, on y voit quelqu'un qui réfléchit et qui, à chaque instant, au nom de cette idée que tout gamin, on peut le sauver, se pose en permanence la question du comment faire. Donc, il est au cœur de l'inventivité pédagogique.
Alors, tu as aussi eu, je l'ai dit tout à l'heure, une petite carrière politique. Alors, je ne veux pas parler des fonctions voilà, au sein de quand tu as été élu, hein, mais quand tu as travaillé auprès de... c'était Lionel Jospin, c'est ça, fin des années 90?
Oui, alors j'ai été au Conseil national des programmes à l'époque. J'ai aussi été chargé de mission par Claude Allègre
sur la réforme des lycées. Oui. Voilà. Dis-nous un petit peu ce que tu as fait.
Claude Allègre est un personnage, parce qu'il n'est pas décédé, tout à fait extravagant, complètement insupportable, mais qui avait un aspect provocateur. Et donc, comme moi, j'étais un petit peu la tête de turc des intellectuels de l'époque...
T'étais le pédagogo.
Ouais, j'étais le pédagogo. Il est venu me chercher pour me demander de réfléchir à une réforme du lycée. Et nous avons donc engagé une grande consultation. Nous avons imprimé un questionnaire pour l'ensemble des lycéens, ce qui ne s'est jamais fait depuis d'ailleurs.
Donc consultation des élèves.
Des élèves, en parallèle d'une consultation des enseignants. Mais la consultation des enseignants n'a pas soulevé beaucoup d'hostilité. Mmh. En revanche, celle des élèves a soulevé un torrent de protestations, parce que dans le questionnaire qu'on a proposé aux élèves, il y avait des questions qui étaient insupportables. Par exemple, il y avait une question, vous est-il arrivé de vous ennuyer en classe?
Ils ont tous répondu oui.
Alors, beaucoup ont répondu oui, mais cette question était pour amener la question suivante, qui était, et qu'est-ce qui serait nécessaire pour que vous ne vous ennuyiez plus en classe? Et donc, on les amenait à réfléchir sur ce qu'ils avaient à proposer. Alors, ça a été très, très mal vécu. Ça a été considéré comme une démagogie absolue, s'adresser aux élèves de lycée pour leur demander ce qu'il conviendrait de faire dans les classes, etc. Néanmoins, on a eu un nombre considérable de questionnaires. On les a dépouillés par académie. Ça a été d'une richesse extraordinaire. Et on a présenté 49 propositions, parmi lesquelles il y en a quelques-unes qui ont été reprises par le ministre. Il y a eu ce qu'on a appelé les travaux personnels encadrés.
TPE,
qui étaient les élèves seuls ou en groupe qui préparaient un dossier sur une question qu'ils choisissaient et qu'ils soutenaient à l'oral. On avait aussi proposé la mise en place d'ateliers d'expression artistique dans les lycées professionnels. Ça existait un tout petit peu, ça a disparu très largement depuis. On avait aussi proposé la création des conseils de la vie lycéenne. Ça s'est fait, mais ça s'est fait très en décalage par rapport à ce que nous, nous souhaitions. Nous souhaitions que les conseils de la vie lycéenne soient l'occasion pour les lycéens de débattre des méthodes d'enseignement et d'apprentissage, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt un lieu où on leur demande de quelle couleur il faut peindre les bancs de la cour, quoi. Hein, c'est un peu différent. Et puis, on avait proposé la création de quelque chose qui s'appelait à l'époque l'éducation civique, juridique et sociale, centrée sur l'organisation de débats, qui a pas mal fonctionné d'ailleurs, mais tout ça a été plus ou moins balayé par les réformes successives. J'en garde quand même un assez bon souvenir parce que chaque fois que je rencontre des gens qui étaient au lycée à cette époque et je leur dis de quoi vous vous souvenez, ils me parlent essentiellement de leur TPE. C'est ce dont ils sont souvenus parce que c'est ce sur quoi ils ont vraiment travaillé, quoi, et travaillé eux. Mais ça a été une expérience douloureuse quand même parce que... Non, on s'aperçoit que l'expert, entre guillemets, c'est pas du tout celui qui a la logique du politique. Hein. Bon, l'expert, il propose, le politique, il dispose. Mais après, l'expert, il prend tous les coups qu'on devrait donner aux politiques. Mmh. Et donc, c'est pas forcément une place facile. Mais par rapport à ce que tu disais, peut-être je voudrais dire un mot sur mon expérience en tant qu'élu. Parce que là, en politique, j'ai eu le sentiment de vraiment faire de la politique. Dans la réforme des lycées, j'ai eu le sentiment d'être chargé d'une mission, mais pas vraiment. Un élu, c'est autre chose. Affronter les électeurs, c'est quelque chose. Être chargé d'une mission, moi j'ai été chargé de la formation tout au long de la vie dans la région Rhône-Alpes, j'étais vice-président chargé de ça, c'est-à-dire de ce qu'on appelait à l'époque, le mot a été enlevé des textes, le public résiduel. Les publics résiduels, c'est ceux qui, quand ils sont au chômage, ne sont pris en charge ni par leur entreprise, ni par Pôle emploi, parce qu'ils n'ont jamais vraiment travaillé jusqu'à présent, et dont la formation est assumée par la région. C'est donc les publics les plus bas niveaux de qualification, etc. Et là, moi, je me suis frotté aux vraies résistances. Aux vraies résistances de celles et ceux qui veulent que les publics résiduels restent résiduels. Qui veulent que les crédits de la formation continue, profitent d'abord aux ingénieurs, et surtout pas à ceux qui galèrent à chercher un emploi. Qui mettent pour accéder à la formation des critères en termes de maîtrise de la langue ou d'autres choses qui sont parfaitement discriminants et qui permettent d'écarter qui on veut. Et je me suis aperçu qu'il fallait se battre en permanence pour que ces publics-là, les plus déshérités, les plus loin de l'école, de la culture et de la formation, puissent avoir accès à des formations de qualité, et qu'il fallait se battre non seulement contre la droite, mais, je le dis aussi avec un peu de tristesse, avec une grande partie de la gauche, qui préférait quand même souvent céder aux sirènes du patronat et former des gens qui étaient facilement employables. Moi, quand je voulais, enfin, pour créer un CFA et former des ingénieurs pour France Télécom, il suffisait d'un coup de fil au PDG de France Télécom pour monter une formation à Buis-les-Baronnies pour les gamins qui n'avaient strictement aucune possibilité de se former autrement, il fallait 3 ou 4 ans de travail. Et c'est là où on voit l'inégalité aussi, et on la touche de très très près.
Hier, j'avais une table ronde à l'Assemblée nationale sur école et tri social. Et je lisais le compte-rendu de cette table ronde, et à un moment donné, il y a un député Rassemblement National qui dit à la ministre, à notre nouvelle ministre, il lui dit « Vous avez voulu Bourdieu, Mérieux, Haby, vous les avez eus. » Alors, Haby, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'inventeur du Collège Unique, enfin, l'architecte du Collège Unique sous Giscard en 1975. Et donc, en voyant ça, alors c'était le Rassemblement National, hein, je me suis dit, quand même, tu avais laissé ton empreinte, hein. C'était pas passé complètement inaperçu. Bon, ça, c'était pour la petite anecdote. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est cette table ronde et c'est l'état des lieux sur l'école aujourd'hui. École et tri social. Toi, si tu devais poser un diagnostic assez rapide sur ce qui arrive aujourd'hui à notre école, qu'est-ce qui te semblerait le plus urgent de dire, le plus urgent sur lequel alarmer ?
Que nous sommes devant une période de grand renoncement. Pas de grand remplacement, de grand renoncement. Y compris par rapport à ce qui a été, tu citais Haby, la politique du centre-droit. Parce que Haby n'était pas un homme d'extrême-gauche. Nous sommes dans une période de renoncement, de recul en arrière, dans une période où on a le sentiment que ce qui a fait, alors je vais peut-être vous paraître ambitieux, mais ce qui a fait au fond l'idéal des Lumières, l'idéal de l'éducabilité universelle, au fond n'est plus à l'œuvre dans la République. Et quand je dis ça, je le dis pour l'école, mais je le dis plus globalement pour l'éducation. Si je vois, par exemple, aujourd'hui, l'état dans lequel est la protection de l'enfance, qui est une prérogative nationale, qui a été larguée au département et qui est gérée d'une manière strictement électoraliste, avec des inégalités absolues, si je regarde les coupes récentes dans le budget, dans la note du budget du 22 février sur le CPF, le compte personnel de formation, on s'aperçoit qu'au fond, la droite qui nous gouverne ne croit pas en l'éducation. Elle ne croit plus qu'en la répression.
Pourtant, je vais me faire un peu l'avocate du diable. Choc des savoirs, lire, écrire, compter, l'école des fondamentaux. Enfin,
oui, mais le choc des savoirs, c'est quoi ? C'est le redoublement et les groupes de niveau.
On ne peut pas dire que... On pouvait presque le dire pour le premier mandat, mais je trouve que pour le second mandat, on ne peut pas dire que Macron soit indifférent à la question de l'école.
Ah, mais sûrement pas indifférent. Mais les réformes ou les propositions de réformes qui nous sont faites ne sont pas construites sur la confiance dans les enseignants et dans les élèves, sur la construction d'établissements qui seraient des lieux de convivialité. C'est construit sur le repérage des gêneurs, l'exclusion de ceux qui ne travaillent pas, le fait de mettre pendant les vacances ceux qui sont en retard dans des stages de français et mathématiques, etc. Pour moi, c'est un renoncement parce que c'est clairement affiché que c'est la sanction, c'est la répression, c'est la punition qui passe avant à la fois la prévention, mais au-delà de la prévention, l'accompagnement, le souci de la personne.
Et moi, tu vois, je me dis quand même qu'on a un peu échoué à faire passer ce genre d'idée, parce qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu as une annonce comme des groupes de niveau... Moi, je peux comprendre que tu aies certaines personnes qui
bien
se disent...
Bien sûr, moi aussi, je le comprends.
Mais, ça,
mais même le redoublement.
Enfin, on va retirer les nuls. Et puis, mes enfants ne vont pas être freinés, mis en retard par les nuls.
Mais même chez les enseignants.
Mais
moi, je connais beaucoup de collègues qui considèrent que leur avoir donné la main sur le redoublement, c'est une vraie conquête et qui en sont très, très contents.
Alors, qu'est-ce qu'on dit à ces familles là ? Comment on leur explique que les groupes de niveau, c'est effectivement un grand renoncement ?
Parce que c'est le fait de ramener, c'est un truc qui me tient bien à cœur, c'est de ramener l'institution à des fonctions de service. Voilà. Moi, je dis toujours, une institution, c'est pas un service. Hein. La qualité d'un service, ça se mesure à la satisfaction des usagers. La qualité du service de la blanchisserie du coin se mesure à la satisfaction des usagers de la blanchisserie du coin. Mais la qualité de la justice ne se mesure pas à la satisfaction des justiciables. Elle se mesure à sa capacité à incarner la valeur de justice. Eh bien, pour moi, l'école, ce n'est pas un service, c'est une institution. Et c'est une institution qui a pour objectif deux fondamentaux, et qui sont les vrais fondamentaux, qui sont apprendre à chacun à penser par lui-même, c'est l'idéal des Lumières, mais aussi à construire du commun. Et à construire du commun avec d'autres qui ne lui ressemblent pas nécessairement, et qui représentent pour lui une forme d'altérité avec laquelle qu'il doit découvrir, avec laquelle il devra être. Et c'est pour avoir insuffisamment dit que l'école était une institution qui devait servir ces deux valeurs-là, et avoir en permanence joué les profs contre les parents et les parents contre les profs, qu'on arrive aujourd'hui à cette espèce de dilution du service public. Au fond, les parents se disent, oui, il y a une espèce de suspicion, est-ce que mon fils ou ma fille est bien traité comme il devrait, et puis je vais voir, faire pression, le mettre dans l'enseignement privé, le mettre ceci, le mettre cela, changer d'école. On a transformé cette institution, alors on va dire républicaine, et moi je ne veux pas que le mot république reste à nos adversaires, cette institution républicaine en une espèce de service à des usagers qui sont traités comme des clients et pas comme des citoyens. Alors je ne dis pas que les enseignants sont totalement blancs dans cette affaire. Je pense que nous n'avons pas su faire une véritable alliance avec les parents citoyens. Je pense que les organisations syndicales et professionnelles enseignantes auraient dû depuis longtemps, c'est 1984, hein, le premier livre, Les consommateurs d'école, Robert Ballion, Les consommateurs d'école. C'est la première alerte disant attention, le service public sera menacé par la montée d'un comportement consumériste et qui fait que les parents ne voudront pas, ne veulent plus mettre leur enfant à l'école parce que c'est l'école de la République, ils vont chercher le meilleur service qui servira le mieux les intérêts de leur progéniture. 1984, ça fait quand même 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on voit monter ce mouvement. Moi, ça fait bien 20 ans que je dis aux organisations professionnelles enseignantes, l'alliance avec les parents progressistes, c'est la priorité des priorités. Si on ne fait pas ça, eh bien, les parents vont être poussés par l'opinion publique, par les médias, dans des postures consuméristes et vont contribuer à faire exploser le service public en une multitude d'officines privées ou non privées, avec éventuellement des espèces de petits trucs parallèles. Moi, à côté de chez moi, vient de s'ouvrir une petite boutique de coach cognitif. Et alors, c'est extraordinaire parce que la publicité sur la vitrine, c'est « il ne réussit pas à l'école, vous ne réussissez pas à le faire travailler, ici, nous allons nous occuper de lui ». Et vous pourrez mesurer les résultats. D'ailleurs, ces coachs cognitifs qui coûtent les yeux de la tête, quand même, et qui se prétendent nourris de neurosciences, de tas de trucs comme ça, vont apparaître comme ceux qui sont les seuls capables d'engendrer de la réussite scolaire. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant.
Moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que ce soit à côté de chez toi.
Ah ben, c'est à côté, c'est à côté, parce que... Mais j'y suis pour rien, c'est la boutique.
Tu sais pas, on sait pas.
Non.
Bon, alors, demain, on est au pouvoir. Allez, tu deviens ministre de l'Éducation.
Non, ça, c'est pas possible.
Tu deviens conseiller du ministre de l'Éducation. Et alors, on fait quoi?
On relie le plan Langevin-Wallon, par exemple.
Alors, peut-être expliquer ce que c'est le plan
Langevin-Wallon. Oui, alors le plan Langevin-Wallon, le Conseil national de la résistance, qui se réunit à partir de 1943-1944, mandate Langevin et Wallon pour élaborer un document qui organise le système scolaire français dans une perspective de justice sociale. Et le plan Langevin-Wallon, c'est un document extraordinaire, mais d'une nouveauté et qui aujourd'hui encore est de nouveauté absolue. Alors, malheureusement, il n'est remis qu'en 1947, donc tardivement, à un moment où déjà les communistes ont quitté le gouvernement, il y a la guerre froide qui arrive, le gouvernement est tout accaparé par des tas de choses et le plan Langevin-Wallon tombe
dans un tiroir
et il n'est pratiquement plus jamais revenu, quoique la gauche souvent le présente comme un texte emblématique. Oui, c'est un texte emblématique. Scolarité obligatoire pour tous à 18 ans, et non plus à 16 ans. Et ça me paraît d'autant plus indispensable aujourd'hui que il y a des complexités nouvelles qui nécessitent un niveau d'instruction important. Pas de sélection précoce et tout le monde dans un tronc commun avec des modules de rattrapage, mais jamais des filières, jamais des groupes de niveau. Une pédagogie centrée sur la participation et l'implication des élèves. Dans le plan Langevin-Wallon, il y a cette belle formule « Ce que l'école enseigne en matière de citoyenneté, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait et ce qu'elle est ». Donc, des foyers, des débats, c'est d'une richesse extraordinaire. Alors, je ne dis pas qu'il faut le reprendre tel quel, parce qu'il y a aujourd'hui de nouveaux enjeux très importants. Mais globalement, c'est, je crois, Antoine Pro qui dit « Le plan Langevin-Wallon, c'est l'idéal de l'école unique pour l'organisation et la pédagogie active pour les contenus ». Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai et qu'il nous faudrait avoir cette audace-là. Voilà. Et moi, ce que je souhaite, c'est vrai que la gauche n'est pas encore au pouvoir, je souhaite qu'elle y revienne bien vite, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'à gauche, on se dote des moyens pour penser un plan Langevin-Wallon à la hauteur des défis d'aujourd'hui. Penser quelque chose qui soit réellement ambitieux et qui soit pas simplement... tu sais, moi j'ai le sentiment souvent que l'éducation nationale, c'est un paquebot où on passe son temps à faire des petites soudures dans le...
On
rafistole, mais on se demande jamais où il va, quoi.
Hein, c'est peut-être des fautes aussi, l'une des fautes du gouvernement Hollande aussi, hein, du mandat Hollande, hein, c'est que même quand la gauche a été au pouvoir... Bah finalement, il y a eu beaucoup de rafistolage et puis il n'y a pas véritablement...
Et il y a eu des lâchetés.
Il y a eu beaucoup de lâchetés et puis il n'y a pas vraiment eu de réflexion de fond sur ce que devait être une école. Voilà.
Il y a eu un peu une réflexion de fond, mais elle est passée au second plan. Elle n'a pas structuré les propositions. La loi dite loi Peillon ne dit pas que des sottises, mais elle est... D'abord, ce n'est pas une vraie loi, ce sont des amendements au code de l'éducation, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui est illisible pour les enseignants. Quand nous avons fait, en 89, la loi dite loi d'orientation, loi Jospin, cette loi qui était rédigée, qui était une vraie loi, elle a été diffusée à l'ensemble des enseignants et des parents. Elle a fait l'objet de débats, elle a fait l'objet... Je ne dis pas qu'on a réussi, mais je dis qu'il y avait eu un effort pour que les finalités, des notions comme la notion de cycle, qui se substituait à la notion d'année, hein, aujourd'hui on est en train de supprimer les cycles, hein, pour revenir à une programmation par an, et on va revenir bientôt à une programmation par mois, quand ce n'est pas par semaine, hein, y avait au moins un effort d'explication. Là, quand la gauche est arrivée au pouvoir avec François Hollande, je trouve que ça a été quand même extrêmement confus. La réforme dite des rythmes scolaires n'était peut-être pas la réforme à faire d'abord. Elle était sûrement à faire. Et je pense qu'elle est encore à faire. Mais ce n'était pas la première à faire. Voilà. La première à faire, moi je l'avais dit à Vincent Payan à l'époque, c'était la réforme de la formation. Initiale
et continue. La formation des enseignants.
La formation initiale et continue.
Qui est dans un état catastrophique.
Aucune réforme de fond aujourd'hui ne pourra advenir si la formation initiale et continue des enseignants n'est pas repensée complètement. Et d'ailleurs, là-dessus, le plan Langevin-Wallon est très clair. Hein. Un seul statut de la maternelle à la terminale. Hein.
On n'y est pas encore.
Et une formation de même qualité et de haut niveau de la maternelle à la terminale.
On relit le plan Langevin-Wallon, on mobilise un plan Marshall aussi peut-être.
Ah ben oui, ce qui est intéressant, c'est que le plan Langevin-Wallon fait déjà une étude financière de ses propres coûts. Il chiffre et il dit, il prend le pourcentage par rapport au PIB, il dit jusqu'où il faut aller par rapport au PIB. Il faut que nous fassions la même chose. Moi, je suis très frappé du fait, tout le monde l'a lu plus ou moins chez Piketty, mais que comparé au PIB, qui n'est pas le meilleur indicateur tout à fait entre nous, les dépenses scolaires n'ont pas augmenté, elles ont diminué. Et elles ont diminué depuis les années, on va dire, 80-90. Donc ça fait 30 ans qu'elles diminuent au regard du PIB. Donc on ne peut pas s'étonner non plus que, entre guillemets, nos résultats dans PISA ne soient pas aussi bons qu'on l'espérait, même si PISA, pour moi, est un thermomètre qui doit être discuté très largement.
Et que la gauche n'a pas su discuter quand c'est arrivé sur le terrain. PISA qui nous donne des indications sur le niveau de maîtrise de la lecture, des mathématiques, mais relativement peu d'indications sur les autres savoirs, créativité des enfants, leur bien-être,
etc. Il y a des
etc.
indicateurs intéressants dans PISA et en général, ce n'est pas ceux qu'on cite.
Ce n'est pas ceux-là qui sont mis en avant.
Ce n'est pas ceux qu'on cite. Ce qu'on cite, c'est les pays qui sont en tête dans PISA. Et on ferait bien, alors, d'aller jusqu'au bout. La plupart de ces pays sont des pays qui font deux choses. Une, qu'il ne nous faut pas faire. Ils font préparer les tests PISA dès l'âge de 5 ans. Et une, qu'il nous faut faire. Ils font de la formation des enseignants. Et ils forment tout au long de leur carrière les enseignants en formation continue.
Bon, on va faire le vœu que la gauche soit à la hauteur des propositions, en tout cas pour une école de demain. Merci Philippe.
Merci Laurence.